Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Et on est là pour s'amuser, on est là pour apprendre dans la bonne humeur. Et moi, je voulais créer cette espèce de contact avec mes élèves. Moi, mes parents ont toujours aimé la musique, donc ils m'ont beaucoup encouragée à me professionnaliser là-dedans. Ça n'a pas été un obstacle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ne voient pas l'avenir à ce qu'une personne puisse devenir musicien ou autre chose, peintre ou, je sais pas, photographe. Et pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, il n'y a jamais de moment parfait pour se lancer. Ça n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose qui va nous bloquer. Et il faut se dire, bon, ben là, j'ai tous les éléments nécessaires, je vais me lancer et puis je vais essayer d'arranger ça au fur et à mesure.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Samira Benmouna. Elle est pianiste, musicologue et pédagogue méthode Williams. Elle est également fondatrice de Musicalia, une école de musique qui base justement son enseignement musical sur la même méthode, donc la méthode Williams. Samira Benmouna, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver dans Job Story aujourd'hui.
Bonjour Karima, merci de m'accueillir sur les ondes de Mehdi 1. C'est également un plaisir de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui.
Tout le plaisir est pour moi, Samira. Alors avant d'en apprendre plus peut-être sur votre carrière, votre parcours, comment vous êtes devenue pianiste, musicologue, etc. Déjà, d'où vous vient cet amour pour l'art, la musique ? Ça vous vient d'où ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en vous depuis votre enfance ? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure du temps ? Voilà, parlez-nous un petit peu de cet aspect.
Exactement. En fait, moi, j'ai été initiée à la musique très, très jeune, à l'âge de 4 ans. C'est mes parents qui m'ont inscrite dans des cours de musique, un peu comme tout le monde, finalement. On inscrit ses enfants dans des centres de loisirs, d'apprentissage, d'activités parascolaires. Et alors, mes parents m'ont mis au piano. Enfin, avant le piano, c'était l'initiation musicale, puis le piano. Donc, ça m'a un petit peu accompagnée toute ma vie. Ça a toujours fait partie de ma vie. Et puis, bon, à un moment donné, on se pose finalement cette question. Est-ce que je choisis la voie de la musique ou je choisis la voie scolaire quand on arrive au bac ? Et puis, moi, en fait, la musique a pris le dessus par rapport à mon apprentissage scolaire. J'étais pas totalement intéressée par l'apprentissage, pour aller à l'université, etc. Donc, du coup, j'ai décidé de poursuivre ma voie dans la musique. Donc, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait l'université Paris-Sorbonne en musicologie. Et puis, j'ai approfondi le max que je pouvais. Et puis, avant de me lancer en tant qu'entrepreneur.
Excellent. Moi, je trouve que c'est une très belle chose quand on a, par exemple, une passion, un amour, que ce soit pour tout ce qui est artistique d'ailleurs, musique et tout ce qui s'ensuit, et de se dire je vais me spécialiser dans ça et je vais en faire des études aussi. Ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on peut combiner les deux finalement.
Exactement, oui, parce que c'est vrai que c'est pas le parcours le plus logique. On se dit finalement, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose de ça ?
C'est pas le plus facile, surtout.
Oui,
c'est pas
le plus facile. Mais finalement, tant qu'on est passionné, on peut y arriver. C'est inévitable. Donc, il faut juste suivre sa passion. Je pense que c'est le plus important.
Donc, vous l'avez suivi, votre passion, Samira. Vous en avez fait des études. Vous avez approfondi vos connaissances. Vous avez fait quoi sur le plan professionnel, une fois vos études terminées ? Est-ce que vous n'avez connu que cet univers ou est-ce que vous avez touché à autre chose avant de vous professionnaliser, en quelque sorte ?
Alors, je n'ai fait que de la musique, c'est-à-dire que même sur le plan professionnel, tout ce que j'ai fait, c'était en rapport avec la musique. Donc, je n'ai jamais touché à autre chose, donc du salariat dans une entreprise ou dans un autre domaine. Mais c'est vrai que quand j'ai fini mes études de musique, je voulais quand même, parce que moi, j'étais très intéressée par la pédagogie, donc je voulais un petit peu toucher à l'enseignement. Donc, j'ai travaillé dans des conservatoires, j'ai travaillé dans des écoles de musique, fait des cours particuliers. Je voulais un maximum d'expérience dans ce domaine pour savoir un petit peu ce que c'était que l'enseignement. Parce que quand on sort d'un conservatoire, on sort généralement pour être pianiste professionnel, pour être concertiste. Donc, on est habitué à jouer au piano, mais on n'est pas vraiment pédagogue. Et moi, j'avais ce besoin de comprendre ce que c'était que la pédagogie. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler dans les conservatoires. Et parallèlement à ça, je voulais aussi faire une formation en pédagogie. Et c'est pour ça que j'ai fait la formation en pédagogie de la méthode Williams.
Et rapprochez-nous un peu plus de cette méthode, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui ne seraient pas forcément familiers avec tout ça.
Alors, la méthode Willem, c'est une méthode d'enseignement. Elle fait partie de toutes les méthodes qu'on dit actives. C'est-à-dire que l'enfant, quand il vient apprendre, il est acteur majeur de son apprentissage. Donc, il vient vivre la musique, il vient vivre les sons, il vient vivre ça à travers tous ses sens, l'oreille, le corps, etc. Et il est initié à la musique très, très jeune. Donc, on l'introduit à l'âge de 3 ans à travers cette méthode. Et la méthode Willem, elle est en trois degrés. Donc, on a le premier degré qu'on appelle le degré d'imprégnation. Donc, l'enfant, il s'imprègne de la musique, il la vit tout simplement sans, sans mettre de barrière, sans lui dire ça, ce sont des rythmes ou des notes ou tout le bagage de la musique, ben, il est mis de côté. Puis il passe au deuxième degré, qui est le degré de la prise de conscience, où finalement on lui dit, ben, tu vois ce que tu as fait quand tu étais en premier degré, ben, c'est ça, ça s'appelle comme ça. Donc il prend conscience de ces phénomènes-là. Et puis il passe au troisième degré, qui est le degré pré-solfégique, pré-instrumental, qui est un degré vraiment de notes, de rythme. C'est vraiment tout ce qui vient juste avant de parler de l'instrument, de toucher au piano ou au violon. Donc, une fois qu'il a fait ces trois degrés-là, l'enfant, il est complètement apte à pouvoir jouer d'un instrument sans barrière. Parce que c'est vrai qu'un enfant, quand on le pose devant un instrument, il est obligé de parler de solfège, etc. Et c'est souvent le blocage qui se passe. Et là, non, il est introduit à la musique. Et donc, du coup, tout coule de source. Tout est normal. C'est vraiment comme l'école, quoi, finalement. On ne peut pas prendre un enfant de 3 ans et le mettre en première année primaire. Il va y avoir un blocage. Il est obligé de passer par la maternelle. Et là, bah, c'est un peu la maternelle de la musique, quoi.
Et ça doit être magique, j'imagine, de travailler avec des petits bouts de chou comme ça.
Oui, c'est vraiment un pur bonheur. Les enfants, c'est une source de bonheur. Ils sont toujours joyeux. Et puis, on apprend tellement des enfants.
C'est, ah oui, ça c'est vrai.
Dans mon apprentissage, dans mon travail, j'apprends plus avec eux que des fois, j'aurais pu apprendre quand je faisais mes cours au conservatoire ou à l'université. Des choses que j'ai appris à faire avec eux parce que c'est eux qui me les ont appris. Donc, c'est vraiment ça qui est génial.
C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à apprendre des enfants. Samira, donc vous enseignez, c'était vos premiers pas dans l'univers professionnel, l'enseignement finalement.
L'enseignement, ça a été les premiers pas, de mes tout premiers pas.
Et comment se sont enchaînées les choses pour vous? Vous êtes resté combien de temps avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat et de vous dire « je vais fonder mon propre projet, ma propre école ».
Alors moi, j'ai commencé à enseigner alors que j'étais toujours étudiante, donc je faisais ça en parallèle. Donc j'étais dans les conservatoires, j'enseignais là et puis j'étudiais jusqu'à avoir fini mes études. Une fois que j'ai fini mes études, j'ai continué à enseigner 3 ans dans les conservatoires.
D'accord.
Avant de me dire, bon, là, c'est le moment pour moi de lancer ce que je veux. Pourquoi ? Parce que je ne retrouvais pas exactement ce que je voulais dans les conservatoires. Ça ne collait pas avec ma pédagogie. Ce n'était pas ce que je voulais faire de mon métier. J'avais une autre envie. J'avais envie de partager quelque chose de nouveau. Je voulais sortir un peu du code académique, des cours magistraux avec le prof qui est là, l'élève qui le regarde. Et puis, non, moi, je voulais vraiment que le cours se passe. L'élève et le prof, on est tous ensemble. Il n'y a pas de « moi, je suis ton prof et toi, tu es mon élève ». Et tu dois me respecter. Alors, il y a toujours un respect, mais on est là pour s'amuser, on est là pour apprendre dans la bonne humeur. Et moi, je voulais créer cette espèce de contact avec mes élèves que je n'ai jamais pu retrouver dans les conservatoires, parce que justement, dans les conservatoires, il y a l'examen de fin d'année, il faut jouer correctement, etc. Et là, non. Donc, je me suis dit, le seul moyen pour moi de pouvoir me faire exactement ce que je veux, c'est de me lancer à mon propre compte. Et c'est pour ça que j'ai lancé... ma petite école de musique. Donc voilà. Et l'entrepreneuriat a toujours fait partie de moi. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Je voulais pas. Pour moi, travailler dans les conservatoires, c'était juste pour acquérir un maximum d'expérience et comprendre aussi comment le client, finalement, qu'est-ce qu'il veut. Quelle est son envie? Au final, à tous ces parents qui viennent inscrire leurs enfants dans un conservatoire, qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est le résultat qu'ils veulent? Et une fois que j'ai bien compris leur envie, je me suis dit, c'est le moment de
me lancer.
Exactement.
Donc finalement, l'entrepreneuriat comme la musique, c'est quelque chose que vous avez en vous depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose que vous avez découvert au fur et à mesure du temps ou par nécessité?
Non, pas du tout. Parce que moi, j'ai des parents qui sont entrepreneurs. Donc j'ai toujours grandi dans une famille d'entrepreneurs. Moi, j'ai toujours vu mon papa pouvoir prendre des vacances quand il voulait. Il a toujours été entrepreneur. Donc je ne connaissais pas ce que c'était que le salariat finalement. C'est que plus tard, quand j'ai grandi et vu mes frères et sœurs qui, eux, travaillent dans des entreprises, que j'ai compris ce que c'était que le salariat. Mais mes parents ont toujours été entrepreneurs. Donc pour moi, c'était normal d'avoir un papa qui peut prendre un congé un mercredi sans problème.
J'aime bien l'exemple.
Oui.
Un exemple assez sympa. Et aussi, c'est beaucoup de travail, on le rappelle, bien sûr.
Bien sûr,
il faut souligner ça aussi parce que beaucoup de gens peuvent penser que l'entrepreneuriat, c'est un fleuve tout calme, tout mignon, alors que
c'est
pas
ça,
du
exactement.
Tout. Voilà. Avant
non,
d'en
pas
arriver
du tout.
au stade de pouvoir prendre justement mercredi en off, par exemple, ben, je suppose que votre papa a dû fournir beaucoup, beaucoup d'efforts tout au long.
Bien sûr. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, ça, c'est vrai que c'est un effet de mode où tout le monde pense que c'est facile, mais c'est très, très difficile de se lancer. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut finir. Mmh. C'est tout le temps, c'est tous les jours. On n'arrête pas d'y réfléchir, on n'arrête pas d'y penser. C'est matin, midi, soir, voilà. Ça ne s'arrête pas. Donc, il faut bien comprendre qu'à côté du plaisir qu'il y a de pouvoir prendre des vacances quand on veut, etc., il y a beaucoup de travail à faire.
Exact.
Et que c'est une liberté, mais on n'est pas finalement si libre que ça parce qu'on n'arrête pas d'y penser. Mmh. Le salariat, c'est peut-être plus carré. Il y a peut-être plus de pression, on va dire, parce qu'on a un patron, mais c'est quand même plus sûr, on va dire, que l'entrepreneuriat, parce que finalement, c'est pas l'entrepreneuriat. Ça dépend le Covid est arrivé et beaucoup d'entrepreneurs ont dû arrêter.
Et beaucoup d'entrepreneurs se sont lancés aussi. Finalement, le Covid, c'était vraiment
vrai.
Une période assez...
C'est une remise en question, je
bizarre.
Pense, les gens ont profité. Ouais.
Exactement. Et donc, Samira, donc avant de parler de Musicalia, vu qu'on est en train de parler de vos parents, quel a été le rôle de votre entourage dans votre choix de carrière? On sait que ça va donner peut-être envie à beaucoup de gens de se dire, ah, finalement, c'est cool. Vous avez pu, par exemple, vous professionnaliser dans la musique, en faire un métier, une passion qui devient un métier et tout. Pour beaucoup de gens, ça peut paraître un peu loin. Comme objectif. Comment ça s'est passé avec votre entourage par rapport à ça, justement? Parce que je pense que l'entourage, c'est ce qui peut représenter le frein pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire la même chose.
Moi, mes parents ont toujours aimé la musique, donc ils m'ont beaucoup encouragée à me professionnaliser là-dedans. Ça n'a pas été un obstacle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ne voient pas l'avenir à ce qu'une personne puisse devenir musicien ou autre chose, peintre ou photographe, tous ces métiers-là.
Cinéaste,
Pour eux, c'est pas sécurisé. C'est pas la sécurité. On ne sait pas si tu auras du travail ou si tu pourras mener une bonne vie. Alors que non, finalement, quand on est passionné, il faut écouter son intuition et se dire, je vais y aller parce qu'on va vivre avec des regrets. Moi, je pense que si je m'étais pas lancée, j'aurais eu des regrets toute ma vie en me disant peut-être que j'aurais pu en faire quelque chose. Mmh. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents m'ont beaucoup, beaucoup soutenue là-dedans. Au contraire, ils m'ont encouragée en me disant, vas-y. C'est tout à fait possible pour toi de devenir musicienne, de faire ce que tu veux, d'être enseignante, de lancer ton projet. Et même quand j'ai lancé mon projet, mes parents m'ont dit, vas-y, fonce, ne te laisse pas abattre par ça. Donc oui, je pense qu'aussi, si on est face à des parents qui bloquent, c'est essayer de les convaincre, de leur dire, de les rassurer. Il faut réussir à les convaincre. Parce que si on a du mal à convaincre ses parents, ça va être plus compliqué de convaincre tout le monde autour de nous. Il faut convaincre ses proches. Il faut avoir les bons arguments. Et puis, tant qu'on n'est pas il faut y aller, il ne faut pas se laisser bloquer par ces ondes négatives qui vont arriver. Sinon, des ondes négatives, on en a beaucoup dans l'entrepreneuriat. Donc,
bien sûr. Si on les écoute, si on suit tout ça, finalement, on ne va pas faire ce qu'on aime, on ne va rien faire en fait, qu'on aime. Donc voilà, et ça c'est vrai aussi, les parents, quand ils voient que nous sommes épanouis et qu'on aime ce qu'on fait, ou qu'on est productif ou qu'on gagne de l'argent aussi, je pense que ça les rassure au final.
Bien sûr,
il faudra apprendre aussi à encourager les enfants à faire ce qu'ils aiment.
Ce qu'ils aiment, exactement.
Parce que le monde est en train de changer. La notion des métiers stables il y a quelques années, c'est plus la même notion maintenant.
Exactement.
Donc, je pense qu'il faut...
Aujourd'hui, il y a plein de nouveaux métiers qui
sortent
qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc, tout le monde est en train de changer.
Ouais.
Tout est en train de changer. La manière de voir des gens est en train de changer. Et au contraire, aujourd'hui, c'est encourageant de se lancer dans des métiers comme ça, artistiques.
C'est vrai. Et dans l'entrepreneuriat aussi. Donc, il faut s'adapter à cette époque. Et voilà, du moment que l'enfant ou l'adolescent a envie de faire quelque chose qui n'est pas nuisible pour sa santé mentale ou pour sa santé tout court, il faut l'encourager dans ce sens et essayer de mettre en place un parcours ou un schéma où il va être le plus épanoui possible dans ce sens.
Exactement, oui.
C'est hyper important. Et on y arrive donc, entrepreneuriat, Musicalia. Vous faites quoi pour fonder votre école? Et voilà, les premiers pas de la création de votre école, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous aviez préparé, voilà, il y a eu une préparation en amont? Rapprochez-nous un peu de ce process.
Oui, totalement, c'était très très difficile parce que là je me suis confrontée aux administrations, un monde que je connaissais pas. Donc j'ai tout créé à la base. Je me suis d'abord lancée moi-même sur mon petit PC en faisant des petites fiches en mode qu'est-ce que je voulais faire, quels étaient les cours que je voulais proposer, faire un business plan, donc le budget, combien il me faut, etc. Tout ça, c'est très important, la préparation avant de se lancer dans les papiers, etc. Donc j'ai bien mis en place tout ce que je voulais. Et puis alors, je me suis confrontée aux administrations. Il fallait créer une société, il fallait trouver un local, il fallait des autorisations, il fallait tout ça. Et ça, c'était vraiment très très difficile à mettre en place. Mais ça s'est fait, je veux dire, ça a pris un bon 3 mois dans les administrations et une bonne année avant pour pouvoir
préparer
tout ça, que ce soit le contenu, je veux dire, sur les réseaux ou Internet, le site web, etc., mais aussi la matière qui allait être enseignée finalement, parce qu'il fallait que je sache où est-ce que j'allais. Qu'est-ce que je voulais proposer, quels étaient les cours, si je voulais proposer des cours d'initiation, qu'est-ce que j'allais faire avec ces enfants-là dans les cours d'instruments, le piano, qu'est-ce que j'allais faire, etc. Essayer de trouver des nouvelles formules, des choses qui vont accrocher. Alors bien sûr, tout n'a pas marché au début. Il y a des choses que j'avais proposées et qui n'ont pas accroché, mais c'est ça le but du jeu aussi.
Bien
c'est
sûr.
Finalement de se dire je vais tester ça et si ça colle, bah tant mieux, si ça colle pas, tant pis, c'est pas grave, je vais proposer autre chose et toujours se renouveler. C'était donc ça, c'était pas évident au début, mais je pense que il faut garder en tête que ça va pas être évident de se lancer.
Bien sûr.
Il faut s'accrocher, c'est normal.
Et ça dure depuis combien de temps, la création de Musicalia?
Alors ça va faire 3 ans et demi, 4 ans en septembre, donc ça fait un bon petit moment maintenant.
Excellent. Et vous sentez que vous êtes finalement là où vous êtes censé être, Samira Benmouna, avec la création de votre école, etc. Vous sentez à votre place, ça a marché?
Oui et non. Je me sens à ma place, oui, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, avoir mon propre truc, gérer mon propre business, etc. Maintenant, c'est vrai qu'à Musicalia, j'ai encore envie de proposer beaucoup plus de choses. S'agrandir, bien sûr. Donc,
bien sûr.
Je pense qu'on a encore besoin de quelques 3-4 ans pour que vraiment on ait quelque chose de plus costaud et qu'on se fasse aussi beaucoup plus connaître. C'est tout à fait mal, les gens ne nous connaissent pas. Donc, il faut prendre le temps. Mais je pense que je suis très optimiste à ce qui va arriver après. Je n'ai pas de doute. J'ai de très bons retours clients et ça, c'est le plus important. Même
bien
si
sûr.
On est encore petit, pour moi, c'est le retour.
C'est la base.
C'est largement suffisant.
Ouais.
Et puis, bien sûr, Inch'Allah, avec le temps, ça va prendre. Donc,
Inch'Allah, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas,
Samira
Benmouna. Et quand il y a la passion, la niaque et voilà, l'envie de bien faire les choses, on finit toujours par y arriver. C'est juste question
bien
de
sûr,
timing.
Oui.
Une fois que le timing est bon, bah, voilà, c'est, des fois, il suffit d'un tout petit détail et tout bascule vers le succès.
Bien sûr, oui, totalement.
Et avec du recul, maintenant, si je vous demandais c'est quoi votre plus beau souvenir professionnel, vous pensez à quoi en premier?
C'est toujours le contact avec les enfants. Pour moi, c'est ce contact-là, le fait de les voir heureux et épanouis. Ça me rappelle d'ailleurs une élève que j'avais eue un jour qui m'avait dit, elle est entrée en cours et elle m'a dit... Tu sais, à chaque fois que je viens ici, j'ai toujours envie de rigoler, de sourire. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour les rendre heureux, ces enfants, et pour qu'ils soient épanouis dans leur vie. On n'est pas là pour leur apprendre. Bien sûr, ils sont là pour apprendre la musique, pour apprendre un instrument, mais ils sont aussi tellement heureux de venir. Et moi, c'est ça qui me rend heureux, c'est quand ils sortent, ils sont contents. Ils ne sortent pas, ils repartent pas chez leurs parents en étant tristes ou fatigués ou ils n'aiment pas. Non. Et cette phrase-là, elle reste toujours bloquée dans ma tête. C'est à chaque fois que je viens, j'ai toujours envie de sourire. Et ça m'a beaucoup marqué.
Oui, ça n'a pas de prix finalement. Voir qu'on a de l'impact et surtout sur des enfants, voilà, j'imagine que ça n'a vraiment pas de prix.
Non, du tout.
Et si je vous demandais cette fois, Samira, de partager, allez, on va dire un conseil ou deux même avec les personnes qui nous écoutent actuellement. Alors deux catégories de personnes, soit les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ont un petit peu peur, ou soit les personnes qui ont une vocation, un amour, une passion pour l'art de façon générale, mais qui ont qui ne savent pas comment en faire un métier justement, ou qui pensent que c'est impossible. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes, à ces jeunes qui nous écoutent?
Alors, pour ceux qui ont une passion pour la musique, pour moi, c'est écouter sa passion, c'est le plus important. Si on est vraiment passionné, il faut aller au bout de cette passion, essayer d'en faire quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire que ça. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire des choses en parallèle. Donc, si on a un métier, on peut garder ce métier et essayer de faire de sa passion quelque chose. Donc, s'ils sont artistes, de jouer de leur instrument, essayer de proposer. Il y a tellement de choses. On peut faire des concerts, on peut faire des cours, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et ou bien si on est peintre, de continuer à peindre, ou si on est photographe, mais de continuer cette passion. Parce que pour moi, si on vient endormir cette passion, on aura toujours ce regret. Et ce serait bête de vivre avec des regrets toute sa vie. Donc il faut y aller. Contraire, ça va leur apporter plus de joie qu'autre chose. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a apporté. Je suis très, très heureuse de faire ce que je fais. Et je pense que ce sera le cas de toutes ces personnes-là. Et puis, vaut mieux tenter et puis se dire ça n'a pas marché, mais moi j'aurais pas de regret que de ne jamais oser y aller avec cette passion. Non, et puis de toute façon l'art ça apporte plus de joie qu'autre chose. C'est un compagnon de vie, qu'on soit musicien. Moi quand je me sens pas bien, je vais jouer au piano, et c'est le cas de tous mes collègues musiciens. Ça les accompagne tout au long de leur vie. Donc l'art c'est à garder dans notre vie. Et pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, il n'y a jamais de moment parfait pour se lancer. Ça n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose qui va nous bloquer. Et il faut se dire, bon, ben là, j'ai tous les éléments nécessaires, je vais me lancer, et puis je vais essayer d'arranger ça au fur et à mesure, parce que de toute façon, des blocages, il y en aura. Donc, ça ne sert à rien de se dire, ben non, là, j'ai pas encore tout ce qu'il me faut. Non, il faut avoir du courage et se lancer dans son projet, et petit à petit, ça va grandir. Il faut pas. C'est un sentiment que j'ai eu, moi, si j'avais pas eu mon entourage autour de moi, je pense que j'aurais laissé tomber aussi, parce que c'est très difficile de se lancer. Mais essayer de s'entourer des bonnes personnes et d'essayer d'endormir cette voix dans notre tête qui nous dit n'y va pas, et plutôt d'écouter l'autre qui nous dit vas-y, fonce, tu vas y arriver. Parce que, Inch'Allah, on y arrive. Quand on y met la passion et la volonté, on finit toujours par y arriver.
Bah c'est sur ce très beau message. Samira Benmounak, se referme notre échange. Merci beaucoup.
Merci
d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir.
Moi aussi, c'est un véritable plaisir de vous avoir rencontré, d'avoir pu discuter de ça avec vous. Merci beaucoup.
Tout le plaisir est pour moi, et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci beaucoup. Merci.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.